Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Voilà un demi-siècle que vous cultivez un humour de résistance. Vous dénoncez à travers la musique les fausses notes de notre société. Un groupe mythique, Odeur, vous a permis de respirer le vrai parfum du succès. Bonjour Ramon Pipin.
Bonjour.
Alors c'est vrai qu'on vous connaît à travers Odeur, à travers Au bonheur des dames, votre répertoire. On va évoquer votre vie et également ce roman, Une jeune fille comme il faut, que vous avez signé, qui est une autre activité. Mais à part ça, bah, il faut revenir aux dates du passé. Et si je vous parle du 9 février 1974, c'est votre première télé. Écoutez ce générique. Samedi soir, Philippe Bouvard et le groupe Il est au bonheur des dames, dont vous faites partie, que vous avez créé, chez Maxim's, est présenté à une vieille dame qui est Marthe Richard.
Marthe Richard, je me souviens. Oui, absolument, absolument.
Celle qui a fait fermer les maisons.
C'était notre première télé.
Oui.
Oh la vache, oui.
Et donc, elle est quand même étonnée de voir des Olibrius déguisés, maquillés, et vous, je crois, habillés en dame, hein, mon Pipin.
Je me souviens plus si j'étais habillé.
Ah, si,
en... Non, je crois qu'à l'époque, j'avais un costume en panthère qui était fait dans un rideau de douche. Il me semble bien.
Oui. Ouais. Mais vous aviez une perruque de femme et la dame Marthe Richard était quand même étonnée, se demandant si vous étiez travesti.
Oui, la pauvre, son combat était un bon combat, mais bon, voilà. Ouais. Nous, on était complètement barrés, oui, à l'époque, évidemment. Hein.
Voilà, et Philippe Bouvard avait eu l'idée de vous présenter à cette dame. Et quand on voit les images de cette vieille dame, tout en noir, qui a quand même été en 46, qui est à l'origine de la fermeture des maisons closes. Elle en a fait fermer exactement 1400, dont 195 à Paris. Mais les tenanciers des maisons closes se sont reconvertis immédiatement en tenanciers de l'hôtel de passe. Voilà. Donc la boucle a été bouclée.
Marthe Richard, oh la vache.
Ouais. Alors, il y avait des gens qui s'appelaient, je crois, Eddie Critchell,
ouais.
Sharon Glory,
absolument.
Rita Brandalou,
ouais.
Chitty Tellawin,
ouais.
Et Hubert de la Motte Fiffray.
Hubert de la Motte Fiffray et Gepetto Benglabros, que
voilà.
Vous avez oublié, ouais, et qui était en porte, qui n'est plus là malheureusement, mais bon, voilà.
Et ces pseudonymes étaient venus comment, Ramon Pipin ?
Alors ça, c'est une question assez amusante parce que en vérité, c'était au cours de, évidemment, quand on a formé le groupe, on a décidé de prendre des faux noms. Il y avait déjà eu un précédent qui était c'était un orchestre qui s'appelait les Pirates.
Oui.
Et à l'époque, on n'a jamais su. Ils avaient des masques. Enfin, ils avaient un peu des cagoules, genre Ku Klux Klan d'ailleurs.
Oui.
Et on savait pas si, en fait, ils avaient mis ça parce qu'ils étaient noirs et que ça aurait été très mal vu, ou si parce qu'ils étaient nobles, issus de belles familles, qui n'auraient pas voulu les voir se dégrader en faisant ça. Et donc nous, on a décidé de prendre des faux noms, un peu, voilà. Et autant je peux vous donner à peu près l'origine de tous, mais moi, j'ignore pourquoi je m'appelle Ramon Pipin. Vous vous rendez compte, ouais. Près de 50 ans après, je ne sais toujours pas pourquoi je m'appelle comme ça. Ce n'est pas mon vrai nom.
Hein. Non, c'est Alain, je crois, votre prénom.
Voilà.
Et alors, il y a un autre Alain, d'ailleurs, qui a fait comme vous, c'est Alain Bernardin, qui, lorsqu'il a créé Crazy Horse Saloon, a donné des pseudos à ses danseuses.
Absolument, oui, oui.
Il y a eu Greta Van Paraboom, Capsula Popo et Rosa Fumetto, qui a été la maîtresse de Johnny et de Paul Naref.
D'accord. Ah, je ne savais pas.
Voilà.
Très bien.
Donc, devant Marthe Richard sidérée, le groupe Au bonheur des dames fait ses débuts à la télévision avec cette chanson.
C'était même pas Olifille.
C'était cette chanson, ouais.
Une chanson des Coasters, une chanson américaine qu'on avait adaptée en français avec un texte crétin de Rita Brantalou, je pense.
Voilà. Pourquoi Au bonheur des dames ? D'ailleurs, Bouvard pose la question et vous ne répondez pas, Ramon Pipin.
Alors, je peux très bien vous répondre. C'était un peu un parallèle avec la troupe de Coluche qui, à l'époque, s'appelait Au vrai chic parisien.
Oui.
Et donc, nous, on a fait Au bonheur des dames parce qu'il y avait évidemment une connotation un peu sexuelle qui nous faisait marrer. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le roman de Zola, par contre.
Non, parce que, remarquez, le roman de Zola, c'est un homme qui veut comprendre les femmes et leurs désirs. Donc, vous avez bien compris.
Oui, mais c'est surtout l'histoire du grand magasin, ça, quand même.
Alors, votre magasin, c'est le Rock et le Twist, car...
Voilà. Très parodique à l'époque.
Très parodique. Oui. Et ça, c'était une première à l'époque, Ramon Pipin.
Moi, enfin, et Jacques, je vous connais un petit peu, donc moi, j'ai toujours été extrêmement fan des chansons qu'on appelait peut-être idiotes des années 40, 50, 60, Dranem, enfin ça c'était encore avant, Réventura, et donc j'ai un peu voulu continuer cette tradition. D'ailleurs, avec Au Bonheur des Dames, on a fait des chansons comme Bébert le Dromadaire, qui sont franchement inspirées de cette époque du music hall, quoi.
Tout à fait.
Mais on avait, comme on était musicien, on avait ce background, enfin moi j'avais ce background rock'n'rollien, et on s'était formé aussi un peu en réaction avec les groupes de l'époque un peu prog, qui passaient des jours et des jours à répéter. Nous on s'était dit, on va faire un groupe, on va monter notre répertoire en une semaine, il ne faudra pas que ce soit trop difficile à jouer, c'est ce qu'on a fait, quoi.
Voilà. Mais en même temps, c'était la suite d'un groupe que vous avez créé, qui s'appelait Rock Io. Io, c'était, je crois, un satellite de Jupiter.
Oui, c'est absolument. Ouais. De Jupiter, je ne savais plus, mais je sais que c'était un satellite. Ouais.
Et c'était votre premier groupe de
rock. Et c'était la nourrice de Zeus ou de...
De Zeus, oui.
Oui, voilà, c'est
et,
ça.
Et pourquoi ? Donc, la musique a toujours été votre truc.
Ouais, moi j'ai toujours... Enfin, mon père voulait que je sois expert comptable, donc heureusement j'ai réussi à m'échapper de ça, mais oui. Moi j'ai toujours fait de la musique, oui, bien sûr, j'ai réussi... J'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma passion jusqu'à aujourd'hui.
Et ce groupe de rock Io, effectivement, a gagné, entre autres, le tremplin du Golf Roux.
Voilà, on a gagné le tremplin du Golf Roux, et en 73, je crois, j'avais été classé dans le journal Best... Espoir de la pop musique française. Et oui. J'attends toujours.
Oui. Et vous passiez au Gibus Club, dans des festivals. Je crois que c'est à Biot que vous avez rencontré Frank Zappa.
Exactement, à Biot. On a joué. Oh là là, je suis impressionné par les recherches et tout. Effectivement, on a joué au festival de Biot où il y avait Frank Zappa, il y avait Amon Dull, il y avait Eric Clapton qui se baladait dans les coulisses. Et c'était la grande époque du rock, quoi. On était descendu dans la camionnette de notre plombier, on dormait à la belle. Enfin, c'était bon, les années 70, quoi.
Exactement. Et j'en reviens à ce tremplin du Golf Roux, car il y a une autre personne qui a obtenu ce diplôme, et c'est son seul diplôme de sa vie, c'est Johnny Hallyday. Il n'a rien d'autre que le diplôme du tremplin
du Golf
Roux.
C'est beau. Alors nous, je tiens à préciser cette histoire si vous ne la connaissez pas. Comme en fait, il y avait des groupes qui avaient répété pendant des jours et des jours, et que nous, on était venus un peu comme un cheveu sur la soupe rapidement, Henri Leproux, qui était le patron du Golf Roux, il avait dit non, je ne peux pas leur décerner le prix du tremplin du golf. Donc il avait créé spécialement pour nous le prix de la bonne humeur. C'est ça qu'on avait eu.
Et la bonne humeur, c'est la France qu'il a eue pendant l'été 74 en écoutant cette chanson. Ça, c'est incroyable, vous vendez 500 000 disques de cette chanson.
Ouais, disque d'or, numéro 1, hit parade avec Il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle, c'était ouais. En même temps, on se battait entre nous. Et oui, succès absolument incroyable, d'autant que moi, avec mon sens aigu de ce qui est commercial ou pas, je voulais même pas enregistrer cette chanson que je trouvais nulle et tout.
Alors, c'est une chanson des Pingouins de 62 qui a repris une chanson de 57 de Sugary.
Sugary, voilà.
Et vous l'avez adaptée à votre façon.
Alors, on ne l'a pas adaptée. En vérité, il y a une version effectivement des Pingouins avec Dominique Blanc-Francard qui était le bassiste et qui est devenu notre ingénieur du son. Et nous, en fait, on a repris les paroles d'Eddie Vartan, le frère de Sylvie Vartan, que lui avait écrit. Simplement, on a rajouté des conneries. Et c'est. La grosse différence entre le truc des Pingouins qui n'a pas du tout marché et nous, 5 ans, je crois 5 ans plus tard ou 7 ans plus tard, peut-être maximum, c'est je suis sorti avec Marcel, les conneries, le ralenti, etc.
Mais c'est resté aujourd'hui d'ailleurs, les expressions sont entrées dans le langage populaire.
Je suis sorti avec Marcel, ouais.
Oui.
Ouais, à l'époque, on disait, vous rendez compte, il m'a dit j'aime pas les PD et tout. Enfin bon, on est en 73. Hein.
Voilà, ça a changé depuis. Ouais. Aujourd'hui, ça serait autre chose. En même temps, c'est un succès que vous n'attendiez pas parce que vous imaginiez pas.
Pas du tout. On s'y attendait pas du tout. D'ailleurs, le premier 45 tours qui est sorti, alors que sur l'album il y avait Olifis, c'était la chanson que j'avais écrite qui s'appelait Match des Malabar.
Oui. Mais vous avez tous en plus des métiers à côté, ou à peu près tous.
Pardon ?
Vous avez des métiers à côté, à peu près tous. C'est-à-dire que vous n'y avait pas que la chanson.
Bah on était jeunes, hein, on n'avait pas. Enfin, Rita, il faisait des études d'architecture. Moi, je faisais mes études de sciences éco. Il y avait notre parolier, Costric Ier, dont on parlera sans doute, qui était dentiste, qui est toujours resté dentiste. Il n'y avait que Jimmy Freud qui, lui, terminait ses études pour devenir psychiatre.
Et ça a changé votre vie, le succès de cette chanson?
Bien sûr, ça change. Oui, bien sûr, on a tourné comme des malades, on a fait l'Olympia plusieurs fois, en première partie de Dick Rivers, on a fait la tournée de Bill Haley, on a failli partir en tournée européenne avec le groupe qui s'appelait Sparks, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.
Et moi, je me souviens d'un concert à la Gare d'Orsay. Les autres soirs, c'était Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud dans une pièce Harold et Maude. Et ce jour-là, mais vous avez pratiquement détruit la scène avec Au Bonheur des Dames.
Alors, je ne sais pas si j'y étais, parce que ça ne me dit rien. Nous, on a joué au Théâtre Renaud Barrault, mais avec Odeur.
Oui, avec Au Bonheur des Dames.
Mais j'y étais peut-être plus. Je suis parti, en vérité, j'ai quitté assez rapidement. Fin 75, j'étais plus dans le groupe.
Voilà, et le groupe a continué. Et il y a eu un autre succès du groupe, qui est une chanson que tout le monde connaît aussi. 24 000 baisers, une chanson créée au Festival de San Remo par Adriano Celentano, reprise par Johnny, par Dalida, par Frankie Jordan.
Et par nous.
Et par vous. Et ça aussi, ça a été un succès.
Pas tellement, non. L'autre assez gros succès de Bonheur des Dames, c'était sur le deuxième album. Bon, il y a Laura, chanson invraisemblable qui raconte une tournante dans un terrain vague. Et Quand arrive l'été, qui est une reprise des Beach Boys.
Voilà. Ouais. Mais le groupe a duré 3-4 ans, puis après ça s'est terminé.
Non, en fait, ils ont continué. Moi, je suis parti pour dissension artistique et dissension d'humeur. Et ils ont continué à tourner, mais ils ont fait un troisième album qui n'a pas du tout marché, qui s'appelait Altola.
Et pourquoi ça collait plus, le succès?
Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'avais quitté le groupe.
Bien sûr,
oui. Bah oui.
Mais évidemment. Mais pourquoi avoir quitté le groupe, justement, Ramon Dupin?
Parce que artistiquement, je m'y retrouvais assez peu. C'était très parodique rock'n'roll. J'avais un peu envie d'autre chose. Et puis, il y avait des conflits d'ego. Il y avait la pression terrible de la maison de disques qui nous disait « Mais en fait, un truc comme les filles !» Ce qu'on a essayé de faire. Alors, on a fait une belle version de Zach Varum, de Camillo, que vous connaissez peut-être. Oui. Qui était pas mal. C'était nos derniers 45 tours, ces derniers trucs que j'ai fait avec eux. Et puis après, on s'est reformés, mais bien plus tard.
Oui, en 2006, avec, je crois, Roulé Bourré.
Voilà, Roulé Bourré qui a bien marché, bien qu'ayant été interdit immédiatement sur toutes les antennes, bien entendu.
C'est pour ça que ça a marché, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on faisait pas, mais franchement...
Ah, vous avez fait d'autres choses. On va en parler avec une autre date, le 17 octobre 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Ramon Pipin.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Ramon Pipin. Mmh. On parlera tout à l'heure de votre roman Une jeune fille comme il faut. On a parlé du Bonheur des Dames. Mais en même temps, vous avez eu une autre carrière qu'on connaît peu. Et le 17 octobre 1984 est sorti un film cher à votre cœur.
Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande.
Marche à l'ombre, par Renaud. Et le titre de ce premier film de Michel Blanc, il existe grâce à une chanson de Renaud qui vous doit beaucoup. Marche à l'ombre, car cette chanson, vous l'avez réalisée 4 ans plus tôt.
Oui, c'est ça. Enfin, en fait, c'est pas tout à fait la vérité, parce qu'on était trois réalisateurs et je travaillais avec Renaud depuis... je crois que j'ai commencé à travailler avec lui en... C'est quelle année, ce film ?
84.
Oui, j'ai commencé à travailler avec lui en 80.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est plutôt mon collègue Laurent Gaspiris qui avait réalisé cette chanson, parce que chacun avait son propre truc, quoi.
Voilà.
Donc,
mais vous avez fait ensuite Mon Beauf et Le Retour de Gérard Lambert.
Mon Beauf, Le Retour de Gérard Lambert, ça j'ai composé, oui.
Et comment est née cette complicité avec Renaud ?
Bah, parce que je crois qu'il cherchait de la fantaisie. Je crois qu'on peut dire ça. Il cherchait à sortir un peu de son image de Titi parisien avec trois accords de guitare. Donc, nous, on avait vraiment la cote à l'époque, puisque j'étais avec mon groupe qui s'appelait Odeur. Et donc, il nous a approchés, je pense, par l'intermédiaire de notre bassiste. Et puis, on s'est entendus. Et puis, moi, j'ai fait trois albums avec lui.
Oui, voilà. Et vous avez même travaillé sur les musiques.
J'ai travaillé, bah oui, j'étais donc son directeur artistique, réalisateur, arrangeur. On dirigeait ses voix, tout ça, on s'occupait des morceaux, et occasionnellement compositeur.
Voilà, parce qu'il se trouve que Renaud, moi je me souviens de ses débuts à la Pizza du Marais avec sa casquette, il n'intéressait personne, personne ne venait écouter, les salles étaient vides, et ensuite c'est grâce justement à Marche à l'ombre qu'il a débuté.
Oui, bien sûr, on a vraiment explosé les ventes avec cet album, quoi.
Et comme il était provocateur, je ne sais pas si vous en souvenez, Ramon Pipin, il a dédié ce disque à Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1.
Non, je ne me souvenais pas.
Voilà, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde.
Vache, non, je ne me souvenais pas.
Alors, tout ça s'est passé dans un studio que vous avez créé.
Il a changé depuis.
Oui, je crois, oui. Chez Ramsès. Ramsès, c'est un studio que vous avez créé.
Voilà, c'est un studio que j'ai créé, en fait, suite à mon départ du Bonheur des Dames. Les gens pensaient que j'étais milliardaire, c'était absolument pas le cas, surtout dans la mesure où je n'ai pas composé ce morceau. Nous n'avions touché strictement aucun droit d'auteur. Alors, non seulement on a touché, ce qui est assez marrant, aucun droit d'auteur sur cette chanson, mais en plus, comme on s'était fait voler tout notre matériel...
Ah bon ?
Tout notre matériel de tournée, sono, ampli, guitare et tout ça dans une camionnette. Donc toutes les royautés sont passées dans le rachat de matériel. Donc voilà. En fait, je suis sorti de là, j'avais un tout petit peu de sous. On a monté un tout petit studio, mais qui a grandi très très vite avec le pianiste du Bonheur des Dames qui s'appelait Gérard Manjoué.
Voilà. Et surtout, il y avait tous les musiciens sont venus un jour ou l'autre travailler chez vous.
Ben parce que c'était devenu un peu le point de rencontre. Moi, je connaissais quand même pas mal de musiciens. Et c'est pour ça que j'ai pu faire aussi mon groupe Odeur, puisque ils s'emmerdaient tous derrière qui derrière Mireille Mathieu, qui derrière je sais pas qui. Voilà. Donc, quand je leur disais, vous voulez pas jouer avec nous ? Ah ouais, super. Et voilà. J'ai donc pu avoir, dans les premiers albums d'Odeur, les meilleurs musiciens de Paris.
Oui, ouais. Parce qu'à l'époque, on appelait ça les requins de studio. C'était des musiciens qui faisaient des séances sans même savoir pour qui ils enregistraient.
Si, en général, ils le savaient. Mais on peut envisager qu'ils ne sachent pas, effectivement.
C'était un métier totalement dans l'ombre, un métier très particulier, musicien de studio.
Ça existe toujours.
Oui, mais c'est pas de la même façon.
Oui, pas de la même façon. Moi, j'ai jamais été requin de studio. Je pense que j'ai pas de niveau. Puis en plus, je suis pas lecteur. J'ai fait quelques séances assez épiques. D'ailleurs, on me mettait une partition devant le nez. Je savais même pas ce qu'il y avait écrit. Donc, mais bon, fallait y aller à l'oreille. On se débrouillait comme ça. Et alors, Odeur est née en fait.
Mais Odeur, on va en parler tout à l'heure justement. Parce que là, on revient à ce studio parce que je crois que même Manu Katché a fait ses premières armes chez vous.
Voilà, absolument. Je crois que c'était le premier client avec son groupe. C'était quoi son groupe ? Zao peut-être ? Oui. Peut-être Zao, ouais, c'est ça.
Ouais. Et ça crée des amitiés.
Crée des amitiés, oui, bien sûr. On est encore correspondu il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, on a dû s'échanger des mots. On est resté, je ne le vois plus, hein, mais.
Oui, mais en même temps.
On est restés amis, oui, on est restés respectueux, voilà.
Mais que tous les musiciens viennent chez vous comme ça, du jour au lendemain, alors qu'il y avait d'autres studios dans Paris, c'était la réputation, c'était le bouche à oreille.
On était au centre de Paris, du côté de Maubert Mutualité, dans des vieilles caves voûtées avec un cachet très particulier. Il y avait une équipe sympa, des techniciens compétents et une ambiance assez exceptionnelle dans un studio. D'habitude, c'est un peu froid, les studios. Et tout. Nous, ce n'était pas du tout ça.
Et c'est dans ce studio que sont nées des musiques de films. La première, c'est celle-ci.
Elle voit l'approchantement.
Elle voit des nains partout.
Une de mes plus belles compositions, je pense.
Et c'était un film qui est tiré d'une pièce de Philippe Bruno qui avait fait plusieurs années
à Paris.
C'est
Philippe Bruno qui avait réalisé le film, je me souviens.
C'est Jean-Claude Susfeld qui avait réalisé le film.
Ah, c'est Jean-Claude Susfeld, absolument.
Et c'était une pièce qui avait été jouée pendant 4 ans à Paris. Et comment vous êtes devenu compositeur de musique de film ? À cause de cette chose.
Je pense que c'était ma première musique de film, mais bon, j'avais déjà fait des musiques de pub. Je connaissais. Comment Jean-Claude Susfeld m'a approché ? Ça, c'est une bonne question, je ne sais plus trop. L'anecdote qui est assez marrante sur ce film, c'est que... En fait, c'est grâce à moi que Zabou, qui travaillait à l'époque, je crois, dans l'émission avec Jackie, qui présentait des émissions pour enfants, et Jean-Claude Susfeld cherchait désespérément une actrice principale, je lui ai suggéré de caster Zabou, et c'est elle qui a eu le rôle.
Ouais, c'est comme ça qu'elle a débuté.
Elle le dit de temps en temps, d'ailleurs, elle me remercie de ça. C'est un hasard, mais bon, je ne suis pas directeur de casting.
Il faut savoir que ce film, elle voit des nains partout. C'était une sorte de film de dialogue en alexandrin où il y avait une Blanche-Neige nymphomane. C'était assez particulier. On ne pourrait pas imaginer ça aujourd'hui.
Non, mais je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez revu, mais moi, je ne l'ai pas
revu. Je crois qu'on ne peut pas le revoir aujourd'hui. Et le premier à avoir fait de Blanche-Neige une nymphomane, on l'a un peu oublié, c'est Gottlieb, quand il avait créé L'écho des savanes en quittant pilote, et avec Bretéché et Mandrika. Et c'était une BD totalement surréaliste qui était passée dans ce journal.
On parle de génie, là. Vraiment.
Alors, ensuite, vous avez travaillé. Ramon Pipin avec Patrice Lecomte, Antoine Decaune, Christian Clavier et même Laurent Baffy, avant qu'il devienne le trublion de Thierry Ardisson.
En fait, Laurent Baffy était mon ami depuis très longtemps, il l'est toujours d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il était simplement le frère, il était totalement inconnu, de notre assistante au studio Ramsès.
Oui.
Donc à l'époque, il habitait dans un petit pavillon, alors peut-être avec Billard, j'en sais rien, et il commençait effectivement à peine. Mais c'est bien plus tard que j'ai fait Les Clés de bagnole, mais on est restés amis, j'ai fait pas mal de musique pour lui, ses musiques de pièces de théâtre et tout ça.
Oui, et d'ailleurs, il y avait un premier court-métrage, c'était Hot Dog, je crois.
J'ai fait cette musique-là, Hot Dog, sur un déchet chiens qui regardent un porno à la télé.
Ouais. Mais,
très, très, très drôle.
Mais justement, Baffy, tel qu'on le connaît à la télé, l'homme est très différent, Raymond Pipin. Moi, je trouve que c'est un homme cultivé d'une gentillesse totale.
Ah oui, absolument, absolument. Ouais, ouais.
Vous êtes d'accord
avec ça? Oui, oui, bien sûr. Je lui voue toute mon amitié éternelle. C'était à l'occasion du mariage de ma fille, il était venu nous voir sans prévenir. Non, c'est un mec super. Hein.
Et il y a aussi Albert Dupontel, vous étiez le premier à le repérer, Ramon Pipin.
Alors Albert Dupontel, en fait j'ai fait la musique de son premier court-métrage qui s'appelait, enfin moyen-métrage qui s'appelait Désiré.
Oui.
Puis après j'ai fait 3 longs-métrages pour lui, dont Bernie, qui est resté mythique et que j'ai vraiment adoré faire parce qu'il m'a laissé, il m'a foutu la paix, ce qui n'a pas été le cas après. Et donc on a fait une BO qui reste aujourd'hui encore assez super, très très rock, voilà. Oui. Mais alors ce qui est marrant, Albert était marrant à l'époque, hein, mais bon, enfin il a toujours beaucoup de talent, mais j'avais fait en fait à peu près peut-être une demi-heure ou 40 minutes de musique, et en fait dans le film il reste 11 minutes. Et pourquoi ? Parce que toutes les scènes de baston où j'avais fait de la musique un peu rock, ça, ils disaient non. Il faut pas mettre de musique, ça fait américain, disait. Voilà.
Et puis vous avez réalisé un court métrage et tu récolteras ce que tu as semé.
J'ai réalisé effectivement ce court métrage avec Jackie, qui était en fait mon attaché de presse avec Au Bonheur des Dames.
Oui.
C'est comme ça que je l'ai connu. Et quand Dorothée s'est arrêtée, il était au creux de la vague, on va dire. Et je lui ai proposé de faire ce court métrage. D'humour noir extrêmement méchant sur un ancien animateur d'émissions pour enfants qui se fait insulter par les mômes quand il fait des animations de supermarché. Et j'aime bien ce court-métrage. C'est ma seule incursion dans la réalisation. Mais j'ai bien aimé faire ça.
Ouais, et il a été aussi l'attaché presse de quelqu'un que vous avez bien connu puisque vous avez joué à l'écran un rôle. Dans le film Je t'aime, moi non plus, vous êtes guitariste, Ramon Pipin.
Voilà, il y a une scène où, je crois, D'Alessandro et Birkin se rencontrent ou se séduisent, je ne me souviens plus exactement. Et nous, on est le groupe qui joue sur scène avec des stripteaseuses. Les pauvres femmes, elles étaient mal, hein, d'ailleurs, je me souviens. Et donc, on a passé une semaine sur ce tournage où il y avait Depardieu, Joe D'Alessandro, Birkin, Gainsbourg, très concentré. Hein. En fait, on n'a pas eu énormément de contact avec lui. Il faisait son film très sérieusement. Il n'était pas du tout... pas du tout bourré. Non, c'était un joyeux souvenir, ça aussi.
Et oui, et on a eu d'autres, on en parle avec une autre date, le 11 juin 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Ramon Pipin.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Ramon Pipin. Il y a ce roman, Une jeune fille comme il faut, et puis le passé. Et le 11 juin 1981, j'ai retrouvé la date et l'affiche, c'est la première d'Odeur à l'Olympia.
Ah là 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 là.
C'est-à-dire que c'est plus Au Bonheur des Dames, c'est Ramon Pipins.
Ramon Pipin.
Odeur.
Ouais.
Et vous allez faire, je crois, 11 Olympias.
11 Olympias avec, en première partie...
Le professeur Choron.
Donc, une série de concerts absolument mémorables. Les coulisses sont impraticables, tellement il y a de caisses de champagne qui ont été amenées par Choron. Il y a des gens, donc il y avait un régisseur à l'Olympia qui s'appelait Marcel,
oui,
qui était un mec qui gueulait tout le temps, qui était une espèce de personnage incroyable, et il y a des gens qui avaient jeté du balcon du crottin de cheval sur la scène, donc entre Choron et nous, donc il était là en train de ramasser un enfoiré et tout, c'était très très drôle, mais ces concerts étaient exceptionnels. J'ai un grand regret terrible, c'est que j'ai une pauvre captation de l'époque avec les VHS, enfin c'était lumatique, mais la qualité s'est détériorée énormément, et donc on devine plutôt qu'on voit, et c'est dommage que ça n'ait pas été filmé, parce que c'était mémorable, quoi.
Oui, alors la première partie, c'est Choron, et à l'époque, on ne le sait pas assez, l'homme de Charlie Hebdo et de Rakiri chantait.
C'est la java de l'inceste illicite, celle qu'on danse avec sa nièce, la petite, on s'approche à
la javis. On imagine mal Choron chanter.
Alors, je vais vous raconter quand même, pour l'anecdote, en fait, nous avons fait 2 romans photos pour Rakiri, puisqu'à l'époque, c'était Coluche, des proches à Rakiri, enfin tout ça. Et au cours de, je crois, du premier ou du deuxième, Choron s'est mis à chanter, c'est un bien grand mot, on va dire scander ses textes, qui sont absolument superbes. Hein. Et j'entends ça, et on prépare l'Olympia, et puis je lui ai proposé de faire la première partie. Et il m'a voué une amitié inextinguible, le pauvre, puisque c'était son rêve de chanter. Donc il s'est retrouvé sur la scène de l'Olympia, il a adoré ça, quoi. Et il faut lire, je crois que c'est dur à trouver, mais il faut lire ces textes de chansons. Hein, la testiculance, tout ça, c'est vraiment super. Quoi.
Alors, le groupe Odeur, justement, c'est la suite des Bonheurs des Dames. Comment est-il né, Ramon Pupin ?
Alors, le groupe Odeur est né de mon amitié, voire de ma complicité avec mon acolyte Kostrick Ier,
qui avait pseudo.
Écrit... Voilà, qui avait écrit pas mal de chansons déjà pour Bonheur des Dames, dont Laura, chanson dont j'ai parlé tout à l'heure. Le Parkinson, chanson terrible sur une. On avait inventé une danse qui s'appelait Parkinson. Non mais enfin voilà. Et on s'est dit avec mon camarade Kostrick, faisons ce qu'on a envie de faire sans se soucier aucunement de la censure, de si on va trouver une maison de disque et tout. Et donc on a fait cet album. Et d'ailleurs, au moment de le démarcher, je me suis fait jeter d'absolument partout. Heureusement, ma deuxième visite chez Polydor, il y a un mec qui a eu le courage de sortir cet album et on en a vendu 100 000.
Voilà. C'est, le slogan, c'était « Odeur frôle le bon goût sans jamais y sombrer ». Voilà, c'est, au moins c'est clair. Et la censure, effectivement, elle n'a même pas existé parce que c'était une parodie totale.
C'était, il y avait beaucoup de parodies, il y avait il y avait Douce Crème, il y avait Youpi la France qui était un peu une parodie de des chansons de Michel Delpech avec un texte de Kostrick génial. Il y avait vraiment des textes extraordinaires.
Hein, Youpi la France, on l'a retrouvé justement. C'était des parodies de chansons françaises totalement délirantes.
Ouais, ça c'était un peu Delpech, chanté par le génial Guy Khalifa, qui était un pianiste, un musicien merveilleux et un chanteur exceptionnel, qui a chanté ça et après il a chanté La Viande de Porc. Voilà.
Alors j'en reviens à l'Olympia et dans mon souvenir, le groupe Odeur arrivait sur scène avec des masques à gaz. Il y avait une fumée verte au céleri qui envahissait la salle.
C'est ça. Alors en fait. On s'appelait Odeur, donc oui. On s'était dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Mais alors, l'Olympia, c'est à l'époque de notre troisième album, oui. En 81. Oui. Et effectivement, sur scène, avant donc de monter sur scène, nous, on était habillés en costard gris, genre homme d'affaires et
avec
tout ça.
Avec une sorte de
céleri.
Et
il y avait des agriculteurs qui passaient dans la salle et qui projetaient du céleri. Après, on avait une chanson, on crachait du couscous. Tous les premiers rangs étaient... fallait plutôt s'équiper avec des imperméables en caoutchouc que de venir en costard trois pièces quoi.
Et donc vous arriviez sur scène et je crois que j'ai vu un spectacle où vous arrivez sur scène dans une poussette poussée par un nain.
Absolument, c'est aussi au début je faisais ça comme moi je suis handicapé malheureusement donc j'ai un peu de mal à me déplacer donc on avait dit tiens ben on va te faire arriver dans une poussette et donc je chantais cette chanson qui s'appelait Shake Baby Shake, oui. Encore un texte de Kostrick et ça on peut le voir sur les documents de l'INA puisque c'est ce que j'avais fait pour l'émission de Decaune Les Enfants du Rock.
Voilà, et le spectacle pendant deux heures c'est délire total, tout était possible,
on était à poil, il y avait des danseuses qui s'appelaient les Mouillettes. Oui, dans Couscous Boulettium, il y a effectivement. Alors, on était entouré de cellophane, mais il y avait soit Kostrick, soit Dominique Esnault, intégralement à poil. Ouais.
Oui, mais en même temps, vous le disiez, le couscous, c'est-à-dire que vous faisiez monter, moi je me souviens d'avoir vu monter un spectateur sur scène, dans un coin, et vous lui offriez des boulettes, c'était le Boulettium.
Alors, en fait, il y avait. Quand on a fait l'Olympia, donc nous, on faisait nos spectacles sur scène, et chaque soir, on avait un invité. Qui était à droite de la scène et on lui servait à dîner. Mais sans se soucier du tout de ce qui se passait pour le reste. Mais Couscous Boulettium, c'est une chanson assez visionnaire, plutôt sur ce que va devenir un peu la malbouffe, puisque ça raconte en fait l'histoire d'un cobaye sur lequel on teste un couscous radioactif. Voilà.
Alors, faire monter un spectateur sur scène et lui offrir à dîner, c'est un principe qu'avait appliqué Robert Derry dans Les Branquignoles, où il y avait une loge spéciale, il faisait monter un spectateur sur scène pendant le spectacle, et le spectateur discutait avec la troupe pendant que les sketchs se déroulaient.
J'adore Les Branquignoles. Tout ça.
Alors, effectivement, la censure, c'est pas votre problème, vous ne respectez rien, et une chanson le prouve, Le Vilain Petit Zozio.
Oh là.
Alors là, ce sont des enfants qui chantent.
Ces enfants qui chantent. Alors, moi-même, quand mes enfants ont un peu grandi, quand on écoutait ça dans la voiture, pour la fin, que je ne répéterai pas à l'antenne par décence, je chantais par-dessus pour pas qu'elles entendent.
Ouais. Voilà. Et trouver des enfants pour chanter ça, ça devait pas
alors,
être évident.
Alors, c'était le fils, c'était la fille de Jean-Michel Cachedan, qui était mon guitariste. Le fils qui a maintenant un poste très important à la SACEM, donc je tairai le nom. Et il y avait il n'y avait que 3 enfants. Hein. On n'avait pas trouvé. Et pour la petite histoire, le garçon dont je parle, le soir rentre, parce que ses parents étaient séparés, le soir rentre chez sa mère. Il dit « Oh, j'ai enregistré une chanson, c'était sympa aujourd'hui. » Et il le chante à sa mère. Scandale, scandale. Mais comment ? Donc elle appelle son mari, qui dit « Mais comment tu autorises notre fils à aller chanter ce genre d'ordurerie ?» Enfin bon, voilà.
Mais à l'époque, tout était possible. Au contraire, c'était au second degré.
C'était une autre époque.
Oui, aujourd'hui, vous seriez censuré par les réseaux sociaux, à mon
Ce qui est terrible, c'est que non seulement je serais censuré par les réseaux sociaux, mais je crois que j'oserais même pas le faire. C'est surtout ça. Parce que l'autocensure étant... écoutez, là, je vous raconte quand même un truc. Récemment, j'ai fait une chanson pour dénoncer le complotisme qui s'appelle « Mon ami complotiste ».
Oui. Bon.
Et on a pris un faux nom, Poppy Hamilton and the Dead Salmons, et on a été censuré sur les réseaux sociaux parce qu'il y a marqué « complotiste ». Donc les robots, ils sont cons. Hein. Donc il y a marqué complotiste. Allez, donc le truc, il est difficile à voir aujourd'hui.
Voilà.
Et ils n'ont pas d'humour, les robots.
Non,
les robots n'ont pas d'humour. Voilà.
Les spectateurs d'honneur avaient de l'humour, et les Beatles aussi, que vous avez parodiés.
Voilà.
Vous avez transformé cette chanson des Beatles en marche militaire.
Grandiose idée de Kostrick, hein, ouais. Une fois, même si c'est moi et Jean-Philippe Goud qui l'avons réalisé, grandiose idée de Kostrick. Et je me souviens d'avoir été dans le bureau de l'éditeur de l'époque, dont je tirais le nom encore une fois, et qui m'a foutu dehors en me disant on plaisante pas avec ces choses-là et tout, mais on l'a fait quand même.
Et ça a
jamais
marché.
D'emmerde. Hein. Non. Il est peut-être pas trop tard, mais voilà.
Alors,
enfin, maintenant c'est fait. Donc
pour l'histoire, cette chanson a été enregistrée le 17 octobre 1963. Et en début de séance, les Beatles ont enregistré un message pour Noël pour les membres du fan club. C'était une tradition qu'ils ont reprise chaque année.
Ouais, chaque année, ils faisaient un 47 ans de Noël, effectivement.
Et puis il y a une autre parodie aussi étonnante d'une chanson qui a marqué son époque.
À l'époque où Jean Saint-Pierre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois, ni chameau ni diligence.
Dominique Nicconi.
Voilà, alors une chanson de Sœur Sourire,
ouais.
Qui a fini assez mal, ouais. Poursuivie par le fisc, homosexuel et tout ça. Mais nous, quand on avait fait cette chanson, évidemment qui était une chanson de hyper religieuse, mais encore une fois, on est en 79 hein, quand on enregistre ça. Donc c'est Sappho qui chante la chanson. Et donc on avait fait une parodie un peu disco, assez marrante. Enfin, ouais, c'était bien.
Et personne ne s'en est plaint là non plus.
Non, personne ne s'en est plaint, mais on a joué cette chanson donc dans l'émission d'Antoine de Caunes, Les Enfants du Rock. Je crois que c'est passé la veille ou le lendemain de Pâques. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de courriers pour se plaindre.
Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Mais à l'époque, c'était sans conséquence, le courrier.
Non, non.
Voilà. Encore une fois, les réseaux sociaux, ça aurait été autre chose.
Ouais, oui, oui, c'est marrant de réécouter tout ça. Enfin bon.
Alors, le groupe Odeur, il y a aussi une autre chose. La pochette de l'album est devenue culte. Elle a été copiée 1000 fois. C'est une pochette de Jean-Baptiste Mondino.
Absolument, elle a été copiée pas mal de fois. Donc, et les gens ont pensé que, en fait, j'étais dans un ascenseur et que j'avais mal digéré mes topinambours. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, ce qu'on voulait dire dans cette pochette, c'est que c'était mes émanations du cerveau qui puaient, qui sentaient
oui.
mauvais.
Oui.
Voilà.
Et elle ressemblait à quoi, cette pochette ?
Alors, on est tous, je crois qu'on était chez Publicis,
oui.
Et on est tous massés dans un ascenseur. Donc moi, je suis resplendissant dans un très beau costume blanc avec ma guitare, le sourire aux lèvres, et tous les autres se bouchent le nez, quoi.
Voilà.
Parce que mes pensées sont nauséabondes.
Voilà. Et Jean-Baptiste Mondino était un débutant aussi.
Débutant, absolument.
Et personne ne connaissait alors qu'il est devenu une star. Comment vous l'avez obtenu ? Il est venu comme ça ?
Je ne sais plus. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Non, il avait déjà fait quelques trucs quand même. Hein.
Oui.
Peut-être par la maison de disques, je ne me souviens pas.
Enfin, l'aventure d'Odeur a duré 4 ans parce qu'il y a eu après l'Olympia...
6 ans.
Il y a eu Bobino, il y a eu le théâtre du gymnase pendant 6 semaines.
Bobino pendant 6 semaines aussi.
Et une tournée encore invraisemblable.
Une tournée dans toute la France. La première tournée, on était quand même 38 dans l'autocar.
Oui.
La deuxième tournée, on arrive pour ranger nos valises. Donc le chauffeur ouvre les soutes, il n'y avait plus place. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était les caisses de champagne. Bon. Et c'était assez épique, hein, quand même.
Oui, mais on peut pas, encore une fois, on ne peut pas imaginer un groupe comme ça.
Je me souviens d'une tournée, je crois qu'on était, je ne sais plus, à Limoges, je ne sais pas quoi, et Rita Brantalou, l'extraordinaire Rita Brantalou, voulait absolument coucher avec un parc-mètre.
Oui.
Et donc, il avait été arraché dans la rue, un parc-mètre qu'il avait ramené dans sa chambre, devant les yeux ébahis d'ailleurs de la réceptionniste. Et moi qui étais un garçon plutôt gentil, je me souviens que j'avais été dans sa chambre, j'avais dit: Rita, maintenant tu vas ramener ça où tu l'as trouvé, sinon les flics vont débarquer pour dégradation du mobilier urbain, quoi.
Voilà. Et ça s'est passé comment? Il l'a rapporté?
Je crois qu'il l'a rapporté.
Oui, bah, c'est bien.
Il me respectait à l'époque.
Voilà. Ah ben, on continue à vous respecter aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. On en parle avec une autre date, le 2 avril 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Ramon Pipin.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Ramon Pipin. Mmh. On a parlé de l'équipe folle de Au Bonheur des Dames, et encore plus folle de celle d'Odeur. Et le 2 avril 2021 est sorti un roman, Une jeune fille comme il faut, aux éditions Mon Salon Édition. Et là, c'est plus une journée de 3 minutes, c'est un roman de 180 pages.
C'est un vrai roman de 180 pages, oui. Ouais.
Et pourquoi ce tournant? Pourquoi avoir troqué ces chansons?
Oh, c'est longuement mûri, hein. C'est-à-dire que ça m'a pris vraiment très très longtemps d'écrire ce bouquin. Je l'ai peaufiné, j'ai ciselé le vocabulaire, le style. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que j'ai lu beaucoup... Enfin, je suis un assez gros lecteur. J'ai lu aussi beaucoup de scénarios. Donc à l'époque, ce roman, je voulais en faire un film que malheureusement, je n'ai jamais réussi à monter, et bien que je n'en ai pas été loin, suite à mon court-métrage. Et après, donc, j'en ai fait un bouquin. Voilà.
Alors, c'est un polar et en même temps une comédie déjantée dans le style Au Bonheur des Dames.
Oui, c'est-à-dire que j'utilise, disons, les codes du polar, mais en vérité, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est surtout c'est mes personnages, c'est-à-dire cette espèce de vieux commissaire un peu confit dans le passé, le vieux blues, les vieilles bagnoles, le cinéma de Raoul Walsh, les polars, face à une jeune fille qui a juste un appétit de vivre absolument dément et qui va lui bouleverser sa vie, quoi.
Voilà, l'inspecteur de police s'appelle Paul Gournish, c'est un inspecteur à l'ancienne, comme on n'en voit plus que dans les films en noir et blanc.
C'est ça, c'est un inspecteur des années 50. Ben, il prend sa retraite, hein, en même temps.
Voilà, donc il a passé sa vie à traquer les petits voyous. C'était
les petits voyous et les subtils, qu'est-ce que je dis, les lécheurs de slip de collégienne,
c'est ça, ou... c'est ça, ça.
Oui, ouais. Aussi, ouais. Donc c'est un petit inspecteur en vérité, voilà. Hein, c'est pas très reluisant, hein.
Mais c'était une époque où on traquait les voleurs de monde dans le métro, parce qu'il y avait, moi je me souviens à l'école, il y avait un jeune qui arrivait qui avait une habitude de voler les monde dans le métro très simplement en touchant le poignet, c'est ça partait.
Ah oui, il y en avait qui étaient très bons, ça je sais. Oui.
Alors donc juste avant sa retraite, il sauve une jeune fille d'un kidnapping qui, sans imaginer ce qu'il attend, c'est le fruit de l'histoire.
Alors oui, en fait, il sauve cette jeune fille. Cette jeune fille va débarquer chez lui pour lui ramener une carte de ciné-club qu'elle a retrouvée. Et elle va tomber amoureuse, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, elle va éveiller son fils à la vie, on va dire. Et là, ça va aller de Charybde en Scylla et de mal en pis, quoi.
Voilà, et c'est l'histoire. Et il faut savoir aussi que cet inspecteur, bon, bah, il y a des traits communs avec votre passion de la musique, puisque ses collègues lui offrent une guitare électrique.
Alors non, il lui offre un dobro, qui c'est pas une guitare électrique, en vérité c'est comme une guitare sèche mais en métal.
Oui.
Donc c'est un fan de blues rural. Blues rural, c'est-à-dire c'est pas du blues électrique, c'est plutôt du blues acoustique en vérité. Et il est débranché du monde. D'ailleurs, on sait, en fait, dans ce bouquin, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, parce que j'ai voulu le situer dans un passé un peu éthéré, irréel. Donc c'est pas dans le monde d'aujourd'hui. Et mais ça pourrait se passer aujourd'hui.
Oui,
aussi,
mais
hein.
Les guitares que vous décrivez, c'est celles que vous avez connues à vos débuts.
Les guitares, j'en ai quelques-unes. Moi, j'adore l'objet, hein. Je suis un peu fétichiste des guitares. Et donc, celle-là, c'est une guitare des années 30 qui est faite avec des pièces de machine à laver.
Ça s'appelle
un dobro. Oui, ça existe, j'en ai une, moi-même.
Et puis alors, il passe sa vie à rechercher ce qu'on appelle les incunables. Car à une époque où le vinyle n'était pas revenu, tout le monde cherchait les 45 tours, 33 tours.
C'est ça, et donc lui, il cherche les vinyles, le rare, Les guitares, bon, c'est pas un mec qui roule sur l'or, donc il a cette belle guitare. Il en a une autre qui est un souvenir de son voyage par-delà le mur de Berlin, où on lui avait offert à l'époque une Framus, qui était une guitare allemande, sur laquelle il a débuté. Et il n'est pas très bon, mais il s'évertue à bien jouer, il essaye de faire au mieux.
Et
d'ailleurs, à la fin, dans cette confrontation terrible que j'ai voulu... La fille lui dit, en plus, il paraît que t'es nul à la guitare. Je crois que c'est ça qui le blesse le plus.
Parce que le temps des incunables, le temps des vinyles, vous l'avez connu, c'était autre chose.
Ah, j'ai toujours 2 ou 3 000 vinyles chez moi.
Hein. Oui. Et aujourd'hui, ça vaut de l'or, alors que personne ne s'y intéresse.
Non, ça ne vaut pas de l'or, en vérité. J'ai regardé l'autre jour, parce que je suis tombé sur justement mes vieux disques, comme le premier 45 tours des Stones, sur Decca que j'ai, ça ne vaut pas grand-chose. J'ai quelques disques qui valent un peu de fric, mais...
Mais sinon, aujourd'hui, le retour du vinyle, vous l'expliquez comment, à mon pipin ?
Bah, je l'explique... Moi, j'aime bien le vinyle. D'abord, je suis un peu aussi fétichiste de l'objet. J'aime bien avoir une pochette entre les mains, pouvoir lire, même post-cataracte, pouvoir lire quand même ce qui a marqué sur les pochettes. Et on parle beaucoup de la chaleur du vinyle. Après, quand on discute avec les grands théoriciens du son, ils disent « Mais non, on obtient aussi bien ou mieux avec les numérisations d'aujourd'hui. » Bon, moi, je ne sais pas. Je trouve que Hendrix, ça n'a jamais sonné mieux qu'en vinyle. Bon.
Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde revient au vinyle. Il y a des maisons de disques qui ont été sauvées.
Le problème, c'est que le vinyle aussi, ça se dégrade. C'est-à-dire qu'il faut entretenir les disques qui craquent. Le jour, mon épouse a sorti un disque qu'elle voulait écouter depuis des années et des années, de Esther and Abby Ofarim, un couple, je crois, israélien, oui, à l'époque. Et on l'a mis, mais c'est inaudible. On entend... Voilà.
Et on oublie que les premiers vinyles, on dit que c'est Eddie Barclay, roi du micro-sillon. En fait, c'est sa femme Nicole, sa première femme, oui, qui lui a donné l'idée aux États-Unis de ramener les premiers 45 tours, ce qui a fait la fortune de Barclay et ce qui a lancé les vinyles.
D'accord.
Et alors, la femme de votre héros l'a rencontrée à un concours de Scooby-Doo. Ça aussi, c'est un univers cher à votre cœur.
Ah bon, ça n'existe plus aujourd'hui ?
Bien sûr,
les
que
jeunes,
si.
Au lieu de se battre dans les banlieues, il ferait mieux de faire des Scooby-Doo, moi, je trouve, hein, franchement. Oui. Hein. Et alors, le Scooby-Doo, oui, mais je pense que vous savez ce que c'est. Oui. C'était donc, on tressait des fils, qui étaient des fils électriques, souvent, pour en faire des espèces d'objets qu'on accrochait à un porte-clés ou un truc comme ça, voilà. Et donc, il a rencontré un concours de Scooby-Doo. Je ne sais pas si les concours de Scooby-Doo ont existé, mais en tout cas, moi, je l'ai inventé et c'est bien.
Ça a existé, le Scooby-Doo existe toujours aujourd'hui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment il est né. En fait, Sacha Distel avait fait cette chanson des pommes, des poires, des Scooby-Doo.
Et Scooby-Doo, oui.
Scooby-Doo, c'était au départ une...
Scooby-Doo-Bidoo.
Oui, il lui manquait une parole. Et un soir, dans sa loge, il y a des jeunes qui viennent lui dire, écoutez, on a fabriqué des Scooby-Doo avec ces morceaux de ferraille. Et il a dit, c'est très bien, allez-y, je vous donne le feu vert, sans imaginer un instant que ça aurait autant de succès.
Ah, d'accord,
il n'a jamais rien demandé sur des Scooby-Doo. Et c'est devenu une tradition, à tel point qu'à l'Élysée, les petits-enfants du général de Gaulle accrochaient les clés de l'Élysée avec des Scooby-Doo.
C'est bon.
Ouais. Alors, vous avez aussi la cornemuse dans ce roman.
J'ai quelques racines, vagues racines bretonnes, donc il y a quelques clins d'œil à la cornemuse et surtout à la bombarde, l'insupportable instrument. Qui vous vrille les oreilles. Je vous déconseille fortement de faire une colocation avec un mec qui travaille la bombarde. Hein. C'est terrifiant.
Ça existe encore aujourd'hui ?
Ah ben bien sûr. Là je fais un autre truc qui s'appelle Les Excellents, qui sont sur Internet. On est à 2,5 millions de vues. Quand même, on fait des parodies de chansons de rock. On va faire un album et dans cet album, j'ai sollicité mon ami Jean-Pierre Rioux, breton, qui va faire 2 solos de bombarde, parce que 3, ça va peut-être être insupportable. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'il y a sur Internet, sur Facebook, le journal Atomique, AT plus loin Omique, c'est aussi quelque chose qui vous amuse beaucoup. Beaucoup.
Voilà, j'essaye d'entretenir mon esprit tous les jours en ironisant sur l'actualité, quoi. C'est sur ce qui se passe quand c'est pas trop tragique, parce que parfois je mets le holà. Donc j'essaye tous les jours de trouver des grosses bêtises. Et par exemple, ce matin, j'ai mis ça y est, je suis retourné dans un troquet, il pleut, il fait froid, c'était mieux avant.
Voilà. Et il faut être également les critiques de films.
Oh, quelques-unes, j'en fais pas beaucoup. Quand, oui, parfois, quand ça me hérisse le poil, je le fais, mais bon, j'en fais assez peu quand même.
Et il y a un jeune humoriste qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est Camille Saféris, qui a travaillé avec vous là-dessus.
Alors, il est mon acolyte dans Les Excellents.
Voilà, ce sont des pastilles sur Internet qui ont trouvé un public de jeunes.
Écoutez, on a quand même fait 2,5 millions de vues, donc je ne pense pas qu'il y ait que des vieux qui voient ça. C'est beaucoup. Le dernier truc qu'on a fait, c'était un truc qu'on a fait avec Bénureau, votre sosie, cher ami d'ailleurs, qui s'appelle « Je crois bien qu'il est dans le coltard », ouais, sur des flics. Voilà, je l'ai mis sur mon Facebook ce matin. Alors, vous pouvez aller voir ça. C'est marrant, Bénureau est un génie comique.
Donc vous restez fidèle à la tradition de l'humour qui existait.
Moi je ne peux pas faire autrement.
Alors si, vous faites autrement avec ça.
Enfin, si, je peux faire autrement. D'ailleurs, mon roman, il y a des pages, des trucs qui sont, je crois, très amusants. Hier soir, j'étais invité dans une autre radio et visiblement, l'animateur avait été fasciné par mes trois pages sur les lacets, oui. Sur l'art de nouer ses lacets. Mais dans mon roman, ce que je voulais aussi surtout, c'est faire naître, si possible, l'émotion dans les rapports avec cette fille, dans les rapports de Paul Gournish avec sa mère, l'histoire d'amour même entre son fils et cette jeune fille, Naja. C'est ça qui m'intéresse aussi. Je déconne, mais je ne fais pas que ça. Enfin, j'essaye.
Voilà. Et en même temps, vous montrez votre culture de cinéma, puisque vous évoquez un film qui s'appelle Pink Flamingos, de John Waters, 72.
John Waters, qui vient de publier le deuxième tome de ses mémoires, que je recommande fortement.
Oui, parce que ce film, l'héroïne est qualifiée d'être le plus dégoûtant de la planète. Et pour sortir ce film, il a payé une amende de 10 000 $ pour obscénité. Et alors qu'aujourd'hui, son œuvre est au musée d'art moderne de New York.
C'est ça. Et alors, son actrice s'appelait Divine. Et elle mange en plan séquence une crotte de chien.
Oui.
Et alors, pour la petite histoire, donc mon ami Kostrick me parle de ce film, il dit il faut absolument que tu ailles voir ça. Donc je vais voir ce film et je sors du film et je dis à Kostrick j'ai rien vu de ce que tu me racontes. Et en fait, après, on est repassé devant le cinéma, il y avait marqué sur plein des spectateurs, ils avaient coupé la séquence.
Voilà, ce qui est même plutôt rare. Quoique Émile Cousinet, en 1939, avait fait un film qui avait été censuré, qui était le film le plus bête de l'année.
C'était quoi ?
Oh, je ne sais plus, mais c'était Émile Cousinet, spécialiste du genre. Alors, tout ça ne vous empêche pas, malgré ce roman, de continuer à chanter. Et vous avez récemment, Ramon Pipin, enregistré un disque.
Qu'importe le reste, je suis mon chemin.
Une chanson sur le monde d'aujourd'hui qui est très différente du monde d'hier.
Il y a un deuxième degré de lecture. Le premier degré de lecture, c'est « Oh, t'as fait du Gottener, Yuki », mais pas du tout. Moi, je raconte l'histoire d'un homme qui est indifférent qui se renferme dans sa coquille devant le monde qui nous entoure et qui promène son chien. Voilà.
Et effectivement, ça ressemble au monde d'aujourd'hui.
Ressemble au monde d'aujourd'hui. J'essaye. Mon dernier album s'appelle À l'affût. Pourquoi ? Parce que je suis à l'affût un peu de ce qui peut m'inspirer en lisant la presse, en regardant le monde autour de moi. Et quand ça m'inspire une chanson, quand la muse vient me visiter, quand j'ai cette chance extraordinaire, j'essaie d'en faire une chanson. J'ai sorti 3 albums ces 5 dernières années.
Ouais. Oui. Et avec un public fidèle que vous retrouvez chaque année au Café de la Danse.
Chaque année quand je peux, parce que là, ça fait un moment, disons, tous les ans, tous les 2 ans, en tout cas, j'essaye de remonter sur scène tant qu'on me prête vie.
Et à chaque fois, c'est plein, avec des gags sur scène. Je crois que les serveurs montent sur scène.
Enfin... Ouais, je raconte surtout beaucoup, beaucoup de bêtises entre les chansons. Et musicalement, c'est très pointu. Je suis un adepte de la mélodie. J'ai fait une chanson sur la pauvreté musicale française. Et moi, j'essaye que ce soit riche musicalement, intéressant au niveau des textes. Parfois, j'y parviens. En tout cas, c'est à ça que je m'accroche et c'est pour ça que mon public me suit.
Voilà, c'est un combat pour l'avenir en plus, rester fidèle à la mélodie, aux paroles.
Ça fait un combat perdu, je crois.
Vous croyez ? Non, il faut rester optimiste.
Non, franchement, c'est... C'est oui, je crois que c'est... enfin, je sais pas si c'est un combat perdu, parce que je pense qu'on écoutera toujours les Beatles dans 50 ans, quoi qu'en disent certains, ou dans 100 ans, ou dans 200 ans. Mais la musique a quand même beaucoup changé. C'est vrai qu'il y a une tradition du texte dans la chanson française, mais j'essaye aussi de m'y raccrocher, parce que moi, je peaufine mes textes vraiment, encore une fois, au mot près. Je fais très attention, mais il y a aussi une musique et de la mélodie. J'essaye que les arrangements soient riches. Je fais ça à l'ancienne, dans des studios en bois, avec des vrais musiciens de chair et d'os.
Oui, voilà. Et croyez-moi, à en croire celles et ceux qui nous écoutent, c'est encore de l'avenir, c'est ce que le public cherche. Merci. Contrairement à ce que d'autres pensent. Voilà. En tout cas, en attendant, il y a eu de bonnes notes de lecture avec Une jeune fille comme il faut chez Mon Salon Édition.
Voilà, on peut le trouver sur mon site, qui est ramonpipin.fr.
Voilà, exactement. Et je vous le recommande. Et puis, continuer à chanter. Merci et à beaucoup. Rire à votre façon.
Merci beaucoup, Jacques.
Merci, Ramon Pipon. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.